toi. Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Deux notes de musique au vent des quatre saisons. Je me souviens comme si c'était hier d'un chaton gris-souris perdu un soir d'été. Pas plus haut que trois souris, il s'est approché, a reniflé, puis s'est blotti tout contre moi. Je peux venir chez toi, semblait miauler le petit chat. Jusque sous mon toit, je l'ai suivi. Sur un coussin de laine, rond, 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 il s'est installé. À mes yeux fermés, il s'est endormi, son cœur câlin contre le mien. Voici le début d'un long poème qui s'appelle « Le silence des porcelaines » d'Agnès Domergue, illustré par Valérie Linder dans un tout petit livre publié chez Côte 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 Édition. Et ça me semblait idéal en ce début de mois de novembre où il fait un peu frisquet, n'est-ce pas? Où on a envie de se mettre au coin du feu pour commencer cette nouvelle émission d'On lit quoi nous. La 71e émission d'On lit quoi nous. Avec cette fois-ci, à mes côtés, évidemment, j'ai Lucille. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Et j'ai Philippe qui fait la technique, évidemment. Bonjour Philippe. Et comme vous l'aurez remarqué, il y a une grande absente aujourd'hui, c'est Madame Véro. Madame Véro, elle était un peu fatiguée, alors elle se repose, mais évidemment, on va la retrouver très très vite. Donc si vous nous écoutez, Madame Véro, on vous salue bien bas. On espère que vous allez nous revenir très vite.
Ah oui.
Mais on va essayer comme de faire une belle émission. Voilà, je l'ai dit, c'est l'automne, il fait un peu frisquet, il pleut un petit peu, donc on va vous réchauffer le cœur, on va vous réchauffer avec des beaux mots, avec des belles images, avec de la belle musique. On a tout un programme de plein de choses vraiment chouettes à vous faire découvrir. C'est l'actualité de la littérature jeunesse. Mais comme d'habitude, cette émission dans les coins nous, on va la commencer en musique. Et cette fois-ci, on s'est penché sur la programmation de deux saisons, en fait, autour de Laval. Il y en a une, c'est les Ondines à changer, et puis l'autre, c'est Saint-Berthevin, les Reflets. Et pour les Ondines, on a repéré notamment un petit concert. C'est Hugh Coltman qui va venir jouer le 14 novembre 2025 à 20h30 à l'Atelier des Arts Vivants. Et puis, pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter « Maybe I'm Afraid ».
Somebody told me I was a strong one. Somebody told me I was just me. Somebody told me I was nothing and I was no one. Maybe I'm just somewhere in between. In between. Shadows in my closet, what they'll make me do. I've these shadows in my closet, what they'll do to you. Just afraid.
are these shadows in my closet, what they'll make me do? Are these shadows in my closet, what they'll do to you?
Voici, c'était Hugh Coltman, donc on pourra retrouver à l'Atelier des Arts Vivants à Changé le 14 novembre. Alors, Hugh Coltman, c'est vraiment un mélange de blues, de folk, de jazz, et je pense que vraiment ça vaut le coup d'aller le voir sur scène. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès des Ondines à Changé. Allez, nous on va y aller, c'est le début du mois de novembre, c'est donc la fin du mois d'octobre qui s'est achevé, enfin le mois d'octobre vient de s'achever, et le mois d'octobre c'était l'occasion pour nous aussi de revenir un peu sur une opération qui nous tient à cœur, c'est Octobre Rose, et c'est vrai qu'on a essayé de chercher dans la littérature quelques ouvrages qui parlaient justement de ça, du cancer, du sein, de comment aborder ça avec les enfants, et puis on a fait une petite sélection qu'on aimerait bien vous présenter. On va essayer de faire ça un petit peu plus souvent dans l'Iquano, c'est faire des petites sélections thématiques, l'idée n'étant pas d'être exhaustif, mais d'aborder comme ça un petit sujet. Alors, si on parle du cancer et d'Octobre Rose, il y a forcément une BD qui est ultra d'actualité. C'est la dernière bande dessinée de Magali Luich qui s'appelle Punk à Saint. C'est publié chez Charivari, donc chez Dargaud par contre. Et on retrouve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur le travail de Magali Luich. Magali Luich qu'on avait découverte en BD avec notamment la BD Nowhere Girl, où elle racontait sa phobie scolaire. Et elle racontait aussi son amour des Beatles qui l'avait sauvé de cette phobie scolaire. Et bien cette fois-ci, elle va raconter son cancer du sein et elle nommait rien. Vraiment, on est de l'apprentissage de la nouvelle, en fait, jusqu'à la rédemption, en fait. Mais c'est toutes les étapes sont décrites une par une de manière très très franche, avec à la fois beaucoup de sincérité, mais aussi beaucoup d'humour. C'est ce qui caractérise vraiment le travail de Magali Luich. On retrouve un peu le même procédé qu'on avait dans Nowhere Girl, où pour traiter de la phobie scolaire, en fait, elle prenait un ton qui finalement était assez léger, mais qui ne cachait rien. Et dans Nowhere Girl, elle racontait combien les Beatles l'avaient sauvée à 12 ans. Elle avait découvert cette musique, et cette musique qui ne l'a plus quittée. Et bien dans Punk à Saint, alors qu'elle est en train d'écrire d'ailleurs Nowhere Girl, elle va faire la découverte d'un groupe, pourtant connu, qui s'appelle Les Clash, et notamment de Joe Strummer, son chanteur. Et de la même façon que les Beatles avaient sauvé sa vie quand elle était atteinte de phobie scolaire, eh bien, Joe Strummer va l'aider à passer cette étape du cancer du sein. C'est à la fois punk, vraiment. Il y a musique punk et omniprésente dans la bande dessinée. C'est émouvant. C'est touchant, c'est indispensable, c'est vraiment à faire partager au plus grand nombre, à celles qui ont été malheureusement atteintes de ce cancer, mais aussi à ceux qui veulent le découvrir, parce que tout est décrit. Franchement, c'est une vraie très très belle réussite, et c'est vraiment une BD qu'on peut conseiller à tous les âges. Un deuxième livre que j'avais très très envie de vous présenter, Lucie, je pense que vous serez d'accord avec moi.
Et oui, et qui est sorti tout récemment, et à bon temps.
Exactement. C'est le livre de Marion Coquelicot qui s'appelle Nichonné Fantastique, publié chez Grasset. Et dans ce livre, je vais lire la note d'intention parce que c'est toujours très intéressant de lire les petites notes d'intention qui sont écrites par les auteurs, les autrices là en l'occurrence. Donc Nichonet, argot, ayant une forte poitrine. Dans ce livre, forte signifie fière. Nous avons toutes et tous des seins. Parfois ils nous plaisent, parfois ils nous complexent, notamment parce qu'ils nous semblent éloignés des images que peuvent nous renvoyer les magazines ou les écrans. Vous découvrirez ici une minuscule partie de la diversité des seins, qui est infinie. Chaque poitrine est unique. Montrer ces différences tout au long de la vie, c'est dessiner la beauté et la richesse de la nature et de nos choix. Bienvenue dans cette farandole de Nichonet hautes en couleurs. Voilà pour la petite note d'intention. Et donc Marion Coquelicot va nous présenter, va nous faire une espèce de catalogue graphique un peu de toutes les formes, toutes les sortes de poitrines, de seins, à travers les âges, à travers le temps, à travers les formes, ne serait-ce que des seins, avec juste un acte graphique et puis un petit mot qui permet de comprendre un peu où elle se situe. C'est déjà, c'est ultra beau.
C'est tout en couleurs et avec des jeux de découpage. Et ça explose de couleurs comme ça dans les yeux.
Il y a un côté pop qui est vraiment hyper impressionnant.
Même juste la couverture avec des cases toutes colorées.
Et puis après, ça permet aussi de... Bah, pour les enfants, si on l'offre aux enfants, c'est aussi montrer qu'effectivement, les seins, il n'y a pas une sorte de sein.
Toute la diversité, c'est une ode au sein, je trouve.
Exactement. Non, mais tout à fait. Et c'est vraiment remarquable et je pense que c'est vraiment nécessaire. Et puis à la fin, il y a aussi un petit glossaire qui est vraiment très intéressant.
Oui, super chouette.
Où il y a toute une liste, effectivement, ça reprend les mots qui sont indiqués dans les doubles pages. Et puis, ça permet d'aller un petit peu plus loin. Il y a une petite phrase, généralement, qui explique et qui fait réfléchir de manière un petit peu différente sur ce qu'est les seins, la poitrine et tout ça. Et puis, c'est marrant parce que là, je viens juste de voir que dans les remerciements, elle remercie Magali Lehu pour l'étincelle.
Quelle belle transition.
Voilà, je pense qu'il y a vraiment un lien. Aussi, Camille Froidevaux-Métairi, Charlotte Bien-Aimée, que des gens super.
Oui, Camille Froidevaux-Métairi avait fait un essai sur les seins qui était super aussi, avec des photographies à l'intérieur. Vraiment hyper intéressant.
Tout à fait, la sociologue. et puis Philippe Le Chermeilleur aussi qui est là. Bon, en tout cas, plein de gens bien. Donc voilà, si vous voulez découvrir ce livre, ça s'appelle Nichonet Fantastique de Marion Coquelicot et c'est publié chez Grasset Jeunesse. Et puis deux livres plus documentaires en fait, mais qui sont nécessaires aussi. Donc dans la collection Milan, Mes petits pourquoi, il y a le cancer pour les 4-7 ans. Voilà, ça permet d'aborder d'une manière factuelle un peu toutes les étapes qui vont être menées. Là, c'est pas de la fiction, c'est vraiment du documentaire. Mais ça permet à l'enfant de pouvoir se repérer si sa mère ou quelqu'un de sa famille est atteint de ce cancer. Et puis, chez Priva Jeunesse, il y a aussi un très beau livre qui s'appelle « Maman, le cancer et nous » de Brigitte Labbé et illustré par Éric Gasté. Et qui permet là aussi de mettre des mots sur une situation. Voilà, c'est une famille où la maman va apprendre son cancer du sein et donc c'est toutes les étapes qu'ils vont vivre ensemble. Voilà, deux petits livres qui peuvent vraiment aider à passer cette étape douloureuse. Voilà, je pense que c'est déjà un bon petit panel. N'oubliez pas surtout de vous faire dépister si vous êtes une personne qui arrive dans les âges à risque, on va dire. Allez, nous on va continuer et parler littérature avec les illustrés pour commencer. Et puis, comme je parle beaucoup, parce que quand Véro n'est pas là, forcément, moi, je parle beaucoup. Donc, je vais vous passer la parole, Lucille. Vous allez nous présenter plusieurs coups de cœur, notamment pour les plus jeunes.
Oui, tout à fait. Et je vais commencer par le très joli Un instant, qui est de l'autrice Liuna Virardi, qui est publié chez L'Agrume. Donc c'est un livre pour les tout-petits, en format carré, avec des flaps. Et alors, on va trouver 20 instants simples de la vie, des instants fugaces du quotidien. Et on va les découvrir. Donc vous avez sur chaque flap une illustration. Par exemple, on voit un bonhomme qui est sur des patins à glace et c'est écrit « un accident ». Quand on ouvre, pouf, il est tombé. Mince. Ou une apparition avec juste un tronc d'arbre et on voit un petit lapin sur le tronc d'arbre. Et on va s'amuser en fait à découvrir chaque instant comme ça au fil des pages. Et c'est des illustrations qui sont faites en quatre tons, qui sont très, très vives et très saturées. Et c'est des illustrations qui ont été faites au pochoir. Donc on a un travail très géométrique aussi qui est hyper chouette.
Et qui joue un petit peu sur le pochoir pour donner des fois des petits décalages qui font penser un peu de la sérigraphie.
Oui, tout à fait. Et ça joue aussi sur les pleins et les vides avec beaucoup de contraste. Et oui, ce côté... ce côté pochoir, ça donne un peu plus de dynamique aussi à l'illustration. Et voilà, c'est vraiment un très bel objet pour les tout petits.
Et pour les grands aussi.
Et pour les grands aussi, pour tout le monde, en fait, tout le temps, pour la jeunesse.
Un autre coup de cœur ?
Oui, avec plaisir, je vais vous présenter Troupeau l'hiver, Troupeau l'hiver l'été, de Sarah Chevaux. Sarah Chevaux, qu'on aime beaucoup. Qui est édité toujours chez La Partie. Et donc ici...
Et c'est... chez Thierry Magnier.
Et oui. Et donc, après le très bel album Nuit de chance, dans lequel elle avait expérimenté avec des fusains ou des charbons à dessin, comme elle les appelle, Sarah, elle a eu l'idée de travailler sur les moutons, parce qu'en fait, l'aspérité des fusains lui rappelait la texture des moutons. Et notamment aussi sur les couleurs où elle travaille ses fusains, elle obtient différentes couleurs dans les tons bruns, dans les tons foncés. Et donc elle va recréer des moutons. Et donc en fait c'est un livre qui est un Leporello. Donc c'est un livre que l'on déplie en accordéon. Et pour vous expliquer, sur une des faces, on va retrouver en fait des chèvres aussi, des moutons et un grand paysage de montagne. Et sur une autre face, on va retrouver les moutons et les patous aussi, qui sont importants, et qui vont jouer sur des contrastes. Et en fait, c'est un livre en fait, où on peut jouer sur ces différentes faces. On va pouvoir les assembler pour faire rencontrer les moutons, faire rencontrer des paysages avec les animaux. Donc c'est un livre aussi qu'on peut déployer autour d'un bébé pour être vraiment... il va être un peu le berger du
troupeau. On peut l'enfermer dans les moutons comme
ça.
C'est ça. Et faire des bruits.
Vous faites très bien le mouton, Simon.
Je me suis entraînée.
Et oui, ça se voit. Et Sarah Chevaux, elle a rencontré aussi des éleveurs, en fait, pour vraiment... pour pouvoir les observer, pour pouvoir les dessiner au plus près. Et donc, elle a vraiment eu cette réflexion sur un livre plus expérimental. Comme tout ce qu'elle fait.
Vraiment un fond d'image, ouais, c'est ça.
Voilà.
Heureusement qu'on a des autrices comme ça qui nous permettent de sortir un petit peu des histoires très classiques.
Oui, et d'ailleurs, elle se demandait ce qui avait été fait sur le mouton en jeunesse, et elle voulait vraiment trouver quelque chose qui n'existait pas déjà.
Mission réussie.
Voilà, tout à fait. Ensuite, je continue sur encore un Leporello avec Les trésors de petites fourmis de Anouk Boisrobert et Louis Régaud, qui est édité chez Helium. Et donc, ces auteurs sont un formidable duo qui avait réalisé aussi Popville, qui était super beau. Et donc là, ils ont réalisé un Leporello plein de surprises incroyables. Et qu'on va déplier, et on suit l'histoire d'une petite fourmi qui est dans un jardin et qui glane ici et là un pissenlit, un petit grain de sucre. Et on va la suivre dans son parcours. Et en fait, on va avoir des rabats de feuilles. Et c'est formidable parce qu'en dessous les feuilles, on va avoir des petites cachettes surprises avec des petits insectes qui s'y cachent.
Oui, c'est pas que des rabats, c'est aussi il y a des trous.
Des petites flaps.
Des choses
oui,
ah, c'est génial.
C'est une vraie petite caverne en fait de surprises et c'est incroyable.
C'est marrant, ça me fait penser, moi, il y a un très très vieux livre, je pense qu'il date des années 60, de Bruno Munari, qui était comme ça justement, où on ouvrait, mais il y avait encore des choses à découvrir en dessous, et puis encore en dessous, et puis encore en dessous, avec des calques, tout ça. Enfin, je trouve qu'il s'inscrit vraiment dans cette filiation-là.
C'est vraiment des petites, comme un petit trésor à découvrir. C'est très plaisant. Et pour les grands aussi.
Là, pour tout le monde, encore une fois. Oui. De toute façon, Anouk Boisrobert et Louis Régaud, c'est pareil. Hein. Ils ont commencé par le pop-up. On s'est dit que ça allait être les spécialistes du pop-up, les nouveaux. Et en fait, ils ont sans cesse, ils réinventent le jeu avec le papier, avec les manipulations. Et sans être forcément du pop-up, ils essaient toujours de trouver quelque chose. Il y a toujours eu beaucoup d'inventivité dans leur travail.
C'est ça. Et quand on arrive au bout... de la première phase du livre, on retourne le livre et en fait on arrive dans l'abri de la petite fourmi, dans sa fourmilière, et elle va aller apporter tous ses petits grains dans sa tanière. Et on découvre encore une autre face du livre.
Ah là là.
Plein de choses à déployer.
Et encore un dernier petit coup de cœur pour les plus jeunes.
Et oui, et c'est chez Les Trois Ours, qui est de Claire Brun, édité chez Gallimard Jeunesse. Ici, ça revisite le conte de Boucle d'Or, mais ici, ce sont les ours qui cherchent Boucle d'Or.
Ah ben voilà.
Et alors, il y a un grand ours, un moyen ours et un tout petit ours dans leur maison avec plein de grandes, de moyennes choses et de toutes petites choses. Et alors ici, c'est un album avec des flaps et des tirettes aussi. Et on va pouvoir découvrir plein de petites choses qui sont très jolies.
C'est très architectural en fait.
Oui,
on découvre beaucoup de choses dans la maison. On sent que c'est... Je connais pas son cursus, mais on sent que Claire Brun, elle est inspirée par le design, par l'architecture.
Elle a travaillé aussi, je crois, pour un studio de textile, il me semble. Et elle s'est beaucoup référencée là, sur le design Memphis, très coloré des années 80, avec des tons jaunes, roses, verts, bleus, qui est très très chouette. Et même dans la maison, on voit des objets design très... très chouette.
Plein de belles choses à découvrir pour les plus jeunes. Alors, vous l'avez compris, Madame Véro n'est pas là. Et normalement, là, c'est l'heure du vrac à Véro, de Véro en vrac.
On va devoir faire le générique sans elle.
Puis moi, je vais devoir faire le vrac sans elle. Donc, c'est moi qui vais reprendre cette lourde tâche de faire le vrac à Véro.
Que
Véro,
de pression sur vous.
Véro en vrac.
Vrac.
C'est le vrac à Véro. Voilà. Mais fait par Simon. Allez, c'est parti, j'ai 5 minutes pour vous présenter 6 livres.
C'est parti.
Allez, on commence avec Tom et Mo de Akiko Miyakoshi, publié chez Syros. Alors, c'est le nouvel album d'une artiste japonaise que j'adore. Elle avait notamment fait un goûter en forêt, où là, si vous voulez, hein, on parlait tout à l'heure de cocooning, d'être bien, et ben, franchement, allez voir les illustrations d'Akiko Miyakoshi, c'est très enveloppant, c'est très doux. Dans Tom et Mo, on va trouver Tom, donc, et Mo. Ce sont deux petits lapins qui viennent d'emménager, enfin un lapin, non deux lapins même, et un garçon et une fille qui viennent d'emménager dans le même immeuble, sauf qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Et là, ce jour-ci, ils ne vont pas arrêter de se croiser, et puis... un peu de se repérer parce qu'ils ont le même ciré un peu jaune. Et puis, tout au long de la journée, ils se croisent au restaurant, dans l'ascenseur, dans le train. Alors, des fois, ils se voient, des fois, ils ne se voient pas. Nous, en tant que lecteurs, on les voit tous les deux. Et puis, et voilà, c'est un peu les actes manqués parce que les deux s'ennuient un peu tout seuls chez eux. Ils sont tous les deux enfants uniques. Et évidemment, heureusement, à un moment donné, ils vont se voir, ils vont se rencontrer. Et puis, on comprend qu'ils seront amis pour la vie, en tout cas, pour partager plein de choses. Voilà, c'est très, très beau, très doux. C'est vraiment un beau livre d'hiver avec une magnifique illustration et porté par une très belle histoire. Tom et Mo, Akiko Miyakoshi, Syros. On continue avec un très bel album qui s'appelle Ciel. Et Ciel, c'est un album un petit peu conceptuel de Charline Collette, qu'on avait déjà beaucoup aimé sur pas mal d'albums, notamment le fameux Au bois, chez Aux Fourmis Rouges, et puis Oubi aussi chez Agrume. Et bien là, c'est le projet d'une résidence. Et Philippe, pouvez-vous envoyer un petit peu de musique, s'il vous plaît? Qui va avec, en fait, c'est un livre qui a été constitué avec deux compositeurs, et, notamment Félix Gabisson et Nina Garcia. Et ils ont créé une espèce de bande-son sur cet univers-là, qui s'appelle Brume. Et donc, ils ont créé un début de spectacle, j'imagine, pendant que Charline Collette, en fait, peignait des ciels. Ah, on n'a pas le son. On n'a pas le son, mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle la... Si, voilà, c'est ça. Ça, c'est la brume. Et donc, c'est une musique qui a été constituée. Et puis, et Charline, en fait, elle a peint des ciels qui sont des ciels différents, au rythme du soleil, des saisons, des phénomènes météorologiques. Et on voit que le ciel change. Il prend des couleurs différentes. Il est un peu le symbole des changements climatiques, puis il y a l'orage, et puis il y a la nuit, et tous ces ciels différents, en fait, Charline Collette, en fait, les a peints. C'est très très beau. À chaque fois, elle accompagne ça d'un tout petit texte en fait. Par exemple, la brume et ses fines gouttelettes recouvrent encore un instant le sous-bois et le fan. Le soleil atteint les plumes du coq qui d'un bond se réveille. Cocorico, il va faire beau. Et là, on voit un magnifique lever de soleil. Voilà. Donc c'est une sorte de livre de contemplation. Où on retrouve en plus le talent d'illustration de Charles Nicolette. C'est vraiment magnifique. Donc si vous aimez les ciels, vraiment, je vous conseille ce livre-là. Autre ouvrage très très beau, c'est le nouvel ouvrage de Karine Prash qui s'appelle « Combien de temps ?». Ça nous fait, peut nous faire penser à une chanson, une vieille chanson, mais bon, c'est pas... en tout cas, là, c'est un album, Jeunesse, publié au Seuil Jeunesse. Et dans cet album, Karine Prash, en fait, revient sur la notion de temps. Combien de temps vit un arbre? C'est vrai, ça. Combien de temps vit une luciole? Combien de temps vit une girafe? Combien de temps dort un volcan? Toutes ces questions...
Que de bonnes questions.
Ouais, c'est ça. Toutes ces questions, on va les aborder avec, avec cet album. Cet album, en fait, qui parle de l'infiniment lent. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont durer... presque toute une vie, voire plus, et puis des choses ultra rapides. Voilà, par exemple, un nuage garde sa forme une heure, ou moins. Tout passe, tout change. Certains phénomènes prennent beaucoup de temps. La formation des montagnes, des millions d'années. Un éclair, 0,2 secondes. Un coup de tonnerre, 30 à 70 secondes. Et ainsi de suite, comme ça, Karine Prash, en fait, va prendre plein d'exemples de choses qui se passent dans la vie. Donc des choses infiniment lentes, des choses infiniment rapides, et montrer que tout ça est lié. Et c'est ça qui fait la vie. Et donc c'est un très très beau livre sur une notion qui est assez compliquée à faire saisir pour les enfants. Hein. C'est vrai que le temps qui passe, les années, la différence entre une seconde, une minute, une heure, une vie, c'est très compliqué. Là, ça met vraiment du temps sur des mots, sur des moments différents.
Ça me fait penser quand on comptait... Le temps entre l'éclair et le bruit.
Exactement, non, mais il y a ça, et ça y est dedans, en fait, ça y est aussi dedans. Et puis surtout, il y a l'illustration hein, de
ouais,
Karine Prash,
moi joli.
Que j'adore. Déjà, j'avais adoré La mer, la nuit, et puis Le centre du monde qu'elle avait publié chez Helium, ce sont ses premiers albums. Mais là, encore une fois, alors je pense que c'est du crayon, hein. Oui, c'est du crayon de couleur.
Ouais.
C'est du crayon de couleur, et c'est... Quand on ouvre les pages, enfin, on a envie de rester scotché en fait, sur ces images. Donc voilà, c'est un album très malin et ultra beau. Donc voilà. Allez, on continue avec Ours, chat, morve, phoque de Lali Webb, publié chez Syros. Allez, on va jouer. C'est un jeu, c'est un livre-jeu. En gros, l'idée étant de faire découvrir des façons de parler et de montrer que dans certaines langues, un animal ou un objet, en fait, c'est la somme de plusieurs animaux.
Je suis prête pour jouer.
Vous êtes prête?
Oui.
Alors, quel animal est appelé ours-chat en chinois mandarin? Ours-chat.
Un ours-chat?
Ouais.
Un tigre?
Non, c'est comme un ours, mais avec un peu des oreilles de chat et puis des gros yeux comme ça.
Ah, un panda!
Un panda, oui. Effectivement, puisque en chinois mandarin, on dit xiong mao et xiong mao. Et ben ça veut dire ours qui veut dire xiong et
chat
qui veut dire mao. Donc wow. C'est l'ours chat, c'est le panda. Allez, on continue.
Oui.
Quel animal est appelé embrasse-fleur en portugais?
Oh, c'est beau. Embrasse-fleur.
Le beija-flor.
Waouh. Un poussin?
Non.
Un petit singe?
Non. Philippe, vous pouvez jouer. Faut crier fort, mais
un koala.
Non, colibri.
Oh.
Parce que son bec, il embrasse la fleur.
Ah. Allez. Oui, c'est beau.
Ah, celui-là, je l'adore. Quel animal est appelé morve phoque en gaélique irlandais? Morve, la morve, comme ça, ah, voilà. Et le phoque. C'est dur.
Un morse?
Non. En fait, c'est comme si c'était un phoque qui avait plein de morts. Et donc, ça donne le Smigerl Rouen.
Qu'est-ce que c'est?
La méduse.
Waouh.
Et là, du coup, on l'a en tête un peu, on se l'imagine. Allez, un petit dernier pour la route. Alors, il est facile, celui-là. Quel animal est appelé escargot nu en serbe?
Une limace.
Oui, une limace. Ça donne... Push Golach.
D'accord.
Voilà.
Très bel accent.
C'est un livre-jeu, mais qui est absolument génial. Qui va, je pense, faire vraiment rire les enfants. Il y a trois jeux qui sont proposés. Et comme on est chez Cyrose dans la collection D'une langue à l'autre, il y a un petit QR code qui nous permet d'avoir l'audio avec les vraies bonnes prononciations.
C'est mieux.
Pas les miennes. Et je pense que c'est nettement mieux. Et pour parler un peu de l'autrice, Lali Webb, c'est la chef de projet pour l'association Doulala. Doulala, c'est en fait l'idée, c'est, là je vous donne un peu le concept de cette association, c'est, ils disent sur leur site, c'est faire du multilinguisme de notre société un levier pour favoriser l'égalité des chances et lutter contre les discriminations. Je pense que c'est un beau programme.
Quel beau projet.
N'est-ce pas? Allez, on continue. Vite, le vrac, le vrac,
vite,
le vrac.
Vite.
Allez, il m'en reste deux. Il me reste Compte en valise de Émilie Chazeran, Emmanuel Houdard. C'est publié chez Thierry Magnier. C'est un vrai coup de cœur. C'est encore un livre-jeu. Imaginez que tous les personnages des contes sont partis en vacances. Eh bien, quand ils partent en vacances, il y a un petit problème. C'est qu'ils ont tous perdu leurs valises. En fait, les valises se sont mélangées dans le wagon du train. Et donc, tout est en bazar et il va falloir retrouver les bonnes valises qui correspondent à chacune des personnages du conte. Alors, le texte d'Émilie Chazeran, il est vraiment très, très drôle, très simple. Et puis, il y a l'illustration d'Emmanuel Houdard où, évidemment, c'est fait plaisir. En gros, c'est comme si on ouvrait la valise et puis on sortait quelques affaires de chacun des personnages de conte. Et donc, le jeu, ça va être, évidemment, de retrouver à qui appartient cette valise. Donc là, cher auditeur, vous ne pourrez pas voir, mais effectivement, on voit
indices
un peu. Hein. Il y a un grand manteau rouge. Bon, ça donne quelques indices. Il y a un piège à loup. Il y a un grand couteau. Il y a une petite galette aussi qu'on peut voir. Bon, y a quand même pas beaucoup d'indices qui permettent de reconnaître le petit chaperon rouge, évidemment. Alors après, on a la valise retrouvée. Et là, que la valise retrouvée du petit chaperon rouge, elle est trop belle. Elle est rouge avec un beau...
Très chic.
Ouais, petite poignée en osier, puis des pattes de loup ici en bas. Voilà. Et ainsi de suite, comme ça, sur chaque double page, on va avoir un jeu surprise. Alors attention, dans chacun des éléments, il y a un intrus.
Ah, qui n'appartient pas au personnage.
Qui n'appartient pas au personnage. Et ça... Donc à chaque fois, on peut se laisser un peu berner en disant « Mais pourquoi il y a un tuba et un masque dans le petit pousset ?»
Vous voilà. Avez triché un peu.
C'est ça, triché un peu. Et il y a toujours des slips aussi.
Ah oui.
C'est la valise, donc ils mettent toujours la petite
culotte.
En tout cas, voilà. Si vous voulez jouer autour des contes, je pense que les enfants aimeront beaucoup. Et puis c'est un plaisir de retrouver aussi le travail d'Emmanuel Houdard, une autrice qu'on aime beaucoup. Donc c'est publié chez Thierry Magnier et c'est Émilie Chazeran au texte. Et le dernier du vrac, c'est Chez moi de Carl Johansson. Oh, j'adore Carl Johansson, c'est lui qui avait fait ce magnifique album chez Actes Sud, le catalogue des voitures. Et lui, il aime bien tout ce qui est un peu justement en catalogue. Il y a plein de choses.
En vrac aussi.
En vrac. Il est comme nous, il est en vrac, c'est ça. Et là, donc, on va suivre Aiko. Aiko, c'est un petit souriceau qui va venir rencontrer ses amis. Et ses amis, en fait, vont tous lui montrer un peu leur chez eux, leur chez moi. C'est-à-dire que chacun va montrer sa façon d'habiter un lieu qui est complètement différente. C'est quoi une maison, en fait, ce livre, il nous interroge sur ça. Comment on peut habiter, comment on peut vivre différemment dans plein de lieux différents. C'est remarquable parce que c'est foisonnant de détails. Il y a plein de petites histoires. Ça m'a un peu fait penser au livre de Richard Scarry, le livre le plus grand du monde. C'est-à-dire qu'on peut vraiment se plonger dans l'image et puis aller retrouver les petits personnages. Il y a plein de références aussi. Voilà, c'est un vrai bonheur. Ça s'appelle Chez moi, de Carl Johansson, chez Albin Michel Jeunesse. Je crois que le vrac, c'est quand même compliqué. Hein, prochaine fois, c'est Véro qui s'y colle.
Facile.
Allez, on revient à un rythme plus normal. Vous avez encore quelques albums à nous présenter.
Alors, on continue, c'est parti. Et c'est parti avec les Matoufilous. C'est une série d'albums de Noriko Kudo, qui est traduite du japonais par Alice Uro et publiée chez le Cosmographe. Donc là, j'ai sous les yeux les Matoufilous dans les airs, mais il en existe en fait plus d'une dizaine, et dont 5 sont traduits et publiés chez le Cosmographe. Et c'est un véritable succès au Japon depuis plus de 10 ans chez les enfants. Et donc ici, ce n'est pas 2 chats, ce n'est pas 3 chats, mais c'est 8 chats, un gang de chats, et qui sont toujours très envieux de maître chien, et qui sont toujours prêts à faire plein de bêtises pour notre plus grand plaisir. Et ils vont toujours redoubler d'idées de génie pour se finir dans des situations où en fait ils se prennent à leur propre piège. Et donc là, ils sont très envieux de l'avion du maître chien. Et ils vont se dire, oui, on peut le conduire. Allez, hop, c'est parti pour un tour. en fait, dans cet avion-là, il n'y a plus de carburant. Ils vont atterrir sur une île. Et sur cette île, et ils vont devoir faire tout seul. Et c'est très drôle en fait à lire, il y a plein d'onomatopées, on peut se faire vraiment plaisir à lire cet album-là. Et toute la série est vraiment très très chouette et très drôle.
Moi j'adore aussi, hein. Franchement, Onomatopidou, si vous voulez vraiment, c'est un peu le grand n'importe quoi quand même.
Oui.
Il arrive toujours des trucs, ils ont des têtes qui sont vraiment assez excellentes.
Trop mignon. Voilà. Et puis ils sont très gourmands aussi, ils mangent tout le temps.
C'est dégoûtant.
Donc voilà pour les Matoufilou dans les airs. On continue sur Nuit Blanche, un album écrit et illustré par Florian Piget, édité... J'entends les clap-claps de Simon.
Oui, moi je suis content. Moi, j'aime bien Florian Piget. Donc.
Édité chez Onkfei.
J'aime bien Onkfei.
Oui, la couverture est très bien dans la saisonnalité. On est sur une couverture Bordeaux avec une illustration au acrylique et crayon. Et dans les tons orange, on voit un petit fantôme qui s'échappe de la forêt. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, le soir d'Halloween, a perdu sa maman. Il se retrouve tout seul dans la forêt. Il décide de garder son costume de fantôme parce qu'il se dit que c'est plus rassurant. Ça devrait peut-être fuir les méchants. Et il parcourt la forêt comme ça. Et c'est très poétique, les travail d'illustration est incroyable, c'est dans des tons sépia, il y a un travail de lumière aussi qui est très très joli, très chouette, avec des doubles pages.
Ah bah c'est celle que vous avez là, oui. Que vous ne voyez pas parce que c'est la radio, mais franchement je vous invite vraiment à découvrir cet album parce qu'effectivement la double page que vous avez dans les mains, là, Lucille, elle est trop trop belle.
Oui.
C'est Florent Piget, on l'avait déjà repéré sur vraiment des beaux albums, mais là je trouve qu'il prend une ampleur dans en limitant le nombre de couleurs qu'il utilise.
C'est ça.
Ça donne vraiment une force à son album, quoi.
On est vraiment dans des tons principalement orangés qui sont très beaux. Et c'est une histoire qui est très douce, très poétique et en même temps un peu inquiétante avec cette ambiance-là.
Ambiance Halloween, mais
c'est
gentil,
ça,
quoi.
Voilà.
Eh bien, super. Ben, merci beaucoup, Lucille. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est déjà l'heure du coup de cœur.
Oh.
Ce double coup de cœur, ça s'appelle Le Grand Voyage de Dandy Lapin d'Adèle Pedrola, illustré par Chiaki Okada et publié aux éditions des éléphants. Au pied d'un grand chêne, dans un logis douillet, vivait Dandy Lapin. Ce matin-là, sirotant son jus de carotte préféré, il contemplait son jardin. Ah, que la vie est douce, se disait-il. Les haies étaient fraîchement taillées, l'allée bien ratissée. Tout était à sa place, rien ne dépassait, à part du courrier dans sa boîte aux lettres. Les moustaches frétillantes, Dandy Lapin saisit l'enveloppe. Elle était dodue comme une guimauve. Il ouvrit le courrier et une pluie de confettis s'en échappa. Dandy Lapin lut la lettre, puis resta les yeux flous, sans bouger. Ses voisins approchèrent étonnés. « Quoi de neuf ?» dit l'ami, demanda la grenouille. « Tout va bien au moins ?» ajoutèrent les oiseaux. J'ai gagné le concours de dessin de la mare au saule, bredouilla Dandy Lapin. Le premier prix, c'est gosier les oiseaux ? Dandy Lapin cligna des paupières pour dire oui. Est-ce qu'il y a une récompense, répugna la grenouille ? Dandy Lapin fronça le nez, il prit une grande inspiration et annonça. Un voyage en Australie. La grenouille et les oiseaux firent une danse de la joie. Pour Dandy Lapin, hip hip hip, hurra ! Cependant, le grand gagnant ne semblait pas ravi. Le troisième prix avait l'air vraiment bien, hein, soupira Dandy Lapin. Le kit du parfait jardinier, mais enfin, t'en as plein, des outils de jardin, puis derrière les oiseaux. Partir au bout du monde, tu te rends compte, quelle chance tu as, renchérit la grenouille. Le bout du monde, répéta Dandy Lapin en tremblant de la pointe des oreilles jusqu'aux pompons. Mais la grenouille et les oiseaux étaient bien trop excités pour le remarquer. Dandy Lapin ne voulait pas penser à ce grand voyage. Plus le départ approchait, plus il ronchonnait. Partir en Australie. N'importe quoi, et mon potager, qui va s'en occuper ? La réponse vint du jardin d'à côté. Pars tranquille, Dandy, les graines, on s'y connaît, s'il faut taire les oiseaux. Bah oui, quoi, et pour l'eau, compte sur moi, j'arroserai, ajouta la grenouille. Dandy Lapin fut si surpris qu'il se piqua avec une ortie. Le soir, pelotonné sous sa couette, Dandy Lapin réfléchissait. La grenouille et les oiseaux sont bien gentils, mais moi, je n'ai aucune envie d'aller en Australie. Chaque nuit, il tournicotait dans son lit à la recherche d'une solution. Et chaque jour, ses voisins lui posaient des tas de questions. « Tu veux emmener quoi dans tes bagages ? Tu crois qu'ils mangent des carottes là-bas ?» Dandy Lapin n'en savait rien. Il regrettait d'avoir réalisé un si joli dessin de son jardin. La veille du départ, quel bazar ! Pour le voyage, rien n'était prêt et dans la serre, les semis commençaient à pousser. Il fallait les arroser, les rempoter, les chouchouter. Dandy Lapin était très concentré. Les oiseaux toquèrent au carreau. La grenouille entra d'un bond. « Dis, il faudra qu'on fasse quoi quand tu seras pas là ?» Dandy Lapin sursauta et l'eau du tuyau lui aspergea le museau. « Pas ça en tout cas, plaisanta Dandy Lapin. » Cependant, cette douche l'avait réveillé. Il venait d'avoir une idée. Après avoir écouté la liste de tout ce qu'il y avait à faire au jardin, les voisins rentrèrent chez eux épuisés. Dandy Lapin, lui, se sentait soulagé. Sa décision était prise, enfin. Il regarda ses billets pour l'Australie et sourit. Le moment était venu de faire ses bagages pour la première fois de sa vie. Et peut-être la poussière aussi, pensa-t-il en regardant autour de lui. Ces derniers temps, rien n'était plus comme avant. Tôt le lendemain, Dandy Lapin sortit en tenue sportive décontractée, sac à dos multipoche, basket éco-responsable et manteau à capuche molletonné. La grenouille et les oiseaux furent drôlement impressionnés. Dandy Lapin ferma sa maison à clé, remonta l'allée et ouvrit le portillon en bois. Ses voisins lui adressèrent de grands signes pour l'encourager. « On se voit à mon retour !» fit Dandy Lapin et le portillon claqua derrière lui. Au croisement des hêtres pourpres, Dandy Lapin bifurqua à droite. Il rejoignit un chemin de terre, longea un étang et arriva à une clairière. « Ici, ce sera très bien » déclara-t-il en posant son sac. Dandy Lapin rassembla des branches, fabriqua un tipi et ficela le tout avec une bâche de jardin. Puis il sortit des magazines, un carnet de croquis et un boîte de feutre. « Eh bien voilà, pas besoin d'aller jusqu'en Australie !» fanfaronna Dandy Lapin. Le premier jour, Dandy Lapin allait souvent observer ce qui se passait dans son jardin. Les grenouilles et les oiseaux se débrouillaient plutôt bien. Le deuxième jour, Dandy Lapin en avait ras-le-bol des carottes en boîte. Heureusement, il lui restait des barres de céréales au miel et en avoine. Et il dormait vraiment bien sur son matelas en bousse des bois. Mais le troisième jour, quand son abri s'écroula sous le vent et la pluie, Dandy Lapin s'écria « J'en ai ras le pompon, hein, je rentre à la maison !» Dandy Lapin passa par l'arrière du jardin, espérant être discret. Mais il n'arrêtait pas d'éternuer. Ses voisins, en alerte maximale, surgirent d'un buisson prêt à repousser l'intrus. Ils découvrirent Dandy Lapin, les oreilles basses, le poil humide et les baskets gadouilleuses. « Je suis désolé, les amis. J'avais trop peur de partir en Australie. » Un grand silence suivit, rempli de gouttes de pluie. « Je peux vous proposer de prendre le goûter à la maison pour me faire pardonner ?» Les grenouilles et les oiseaux approuvèrent cette idée. Dandy Lapin servit du thé à la bergamote et du cake à la carotte à ses invités. Puis il leur raconta son aventure dans les bois. « Certes, tu n'es pas parti au bout du monde, mais tu as réussi à partir de chez toi, » conclurent gentiment la grenouille et les oiseaux. « Peut-être même qu'un jour j'irai en Australie, » sourit Dandy Lapin. Soudain, les oiseaux s'affolèrent en fixant les billets d'avion. « Bill Brindy, mais oui, dans 6 jours et précisément. »« Ça alors, Dandy, tu as inversé ta date de départ, c'est le 21, pas le 12, » bondit la grenouille. » Dandy Lapin reposa sa tasse de thé. Il était calme, ses moustaches ne tremblaient pas. Son cœur battait à un rythme régulier. Dandy Lapin n'avait plus peur. « Ah, la vie est pleine de surprises, » dit-il en contemplant son jardin. C'était donc Le Grand Voyage de Dandy Lapin, de Adèle Pedrola, illustré par Chiaki Okada, publié aux éditions des Éléphants. Et puis nous, pour rester dans cette douceur, on va écouter un autre artiste programmé aux Ondines, ça sera le 7 février 2026, c'est Mathieu Bogartz avec son grand tube « Avant que je m'ennuie ».
Chérie, si tu veux que ça boue, si tu veux que ça m'émeut, si tu veux que nous, on refasse du feu, si tu as envie, et si tu veux que je veux moi aussi. Chérie, si tu cherches moi, si tu veux de l'appui, si tu veux du poids, si tu veux que la nuit, je me mets sur toi, oui si tu veux qu'avec toi, je crie. Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie. Chérie, sors de ton trou, montre-moi ta flamme, oui, montre-moi tout. Si t'es une femme, montre-moi dessous, montre-moi tes charmes jusqu'au bout. Oh oui, donne-moi ton goût, moi que tu affames, donne-moi ton cou. Si tu veux que je brame, mets-toi à genoux et range ton arme, ton caillou. Avant que je m'ennuie, avant que je m'enfuie, avant que je m'enfuie. Mais toi, c'est que t'as peur du loup, c'est que t'as peur que je t'aboie. Tu as peur à vous, tu crois que le loup c'est moi. Tu as peur du coup, tu crois que la proie c'est toi, c'est tout. Mais moi, moi je suis né où? Je suis pas né dans les bois, je suis né dans les choux, juste à côté de toi. Range ton fusil, moi je veux que tu veux, toi aussi.
Que je m'ennuie de Mathieu Bogart. C'est oui, l'orfèvre de la chanson pop française va revenir sur scène pour revisiter les 30 ans de carrière déjà. Et puis un nouvel album à sortir, ça sera donc le 7 février aux Ondines à l'Atelier des Arts Vivants. Allez, il nous reste un petit quart d'heure d'émission. On va parler un petit peu de documentaire. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Avec deux docs qui se font un peu écho l'un l'autre. Lucie, je vous laisse présenter le premier, puis moi je présente le deuxième.
Oui, et alors le premier, c'est Tout le monde se parle de Romana Romanichin et André Lessive, publié chez Rue du Monde. Et donc c'est un duo d'auteurs ukrainiens qui ont été multiprimés par leurs différents travaux. Et donc ici, c'est une petite encyclopédie sur les mille manières de s'échanger des informations entre humains et entre êtres vivants. Donc une encyclopédie, tout illustré avec un super travail en plutôt des couleurs néon. Pareil, on est un peu sur un peu sérigraphie dans le genre. Et on va avoir toute forme de communication, c'est vraiment très chouette. Il y a les communications verbales, non-verbales, par exemple sur la danse, où on apprend que la danse est l'une des plus anciennes formes de communication non-verbale. Et il y a aussi plein d'infographies, de choses super intéressantes. On voit par exemple le langage des fleurs qui s'appelle la floriographie. Voilà. Voilà. Et on peut apprendre que les bleuets signifient « sois gentil avec moi ». Donc c'est la manière d'offrir en fait différentes fleurs et d'offrir différentes expressions, émotions. Et on apprend aussi d'autres choses... les communiquer aussi via des objets ou par exemple je me suis toujours demandé aussi au restaurant comment on met ses couverts pour signifier au serveur dit oh, j'ai croisé les fourchettes, est-ce que c'est un drame ou pas,
pour dire si j'ai fini vous pouvez venir prendre
c'est
les ça. Sortes,
ça. C'est tout à fait intéressant, ou les signes de SOS aussi, tout plein de choses en fait qui nous permettent de signifier des émotions, des intentions, super intéressant, très enrichissant.
Et bah super, et bah... ça a l'air très très intéressant. En tout cas, ça donne très envie. Et ben, un peu dans le même esprit, et d'ailleurs graphiquement aussi un bel acte graphique, c'est l'Histoire de l'information de Chris Houghton, publié chez Thierry Magnier. Alors Chris Houghton, évidemment, on le connaît tous pour ses albums. Mais pour oui. les plus jeunes. Onan George, Chut, on a un plan un peu perdu. Bon, voilà, c'est devenu un auteur incontournable de la littérature jeunesse pour les plus petits. Et bien là, c'est un long projet qu'il tient depuis des années et des années. Moi, je sais que quand on l'avait rencontré il y a une quinzaine d'années, il était déjà dans cette idée de faire ce livre-là. Il a fait son histoire de l'information, puisqu'effectivement, l'histoire, on l'enseigne très souvent de manière chronologique, par des faits historiques, justement. Mais on s'aperçoit que tous ces événements, ils ont des raisons, ils ont une façon d'être exposés qui implique un peu une façon de voir les choses et de voir la vie. C'est le principe de l'information. Comment on transmet les choses, comment cette information influe là, évidemment la politique, influe la société, les évolutions des savoirs et les évolutions techniques, l'origine du langage, les premières peintures rupestres, jusqu'à maintenant l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux. Voilà, Chris Houghton va tout balayer. C'est passionnant, c'est vraiment un livre alors qui est à la frontière entre le livre jeunesse et le livre adulte, où on retrouve quand même son rapport au graphisme très important. Il faut savoir que Chris Houghton vient vraiment de c'était son premier métier, donc il y a vraiment ça qui est très présent. On retrouve aussi ces gammes de couleurs qui sont présentes dans ses albums. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un documentaire passionnant. Je vous incite vraiment à aller le découvrir. Ça s'appelle Histoire de l'information et c'est publié chez Thierry Magnier. Allez, il nous reste un peu de temps pour parler des romans. Lucille, avez-vous un coup de cœur pour les plus jeunes lecteurs?
Oui, tout à fait. Et c'est L'Opale et l'Esprit des Eaux de Nastasia, oui, tout à fait, Nastasia Rugani, chez l'École des loisirs, dans la collection 9. Et c'est l'histoire de L'Opale, une petite fille qui s'apprête à fêter ses 10 ans le jour d'Halloween. Et cette année, elle est obligée de rester chez son vieux grand-père, qui est vraiment tout rabougri. Il reste chez lui tout seul. Et alors qu'elle, elle rêve de devenir une grande exploratrice, de partir à l'aventure, et elle ne supporte pas du tout l'ennui chez son vieux grand-père. Et un jour, il lui raconte la légende de Kost, qui est l'esprit des os, et qui se nourrit de squelettes. Alors le jour de son anniversaire, L'Opale va appeler cet esprit-là pour venir manger le squelette de son grand-père. Alors, c'est pas très gentil quand même. Hein,
c'est pas très sympa.
Non. Mais justement, elle ne va pas réfléchir aux conséquences que cela va porter. Et sur les illustrations, on est sur un roman qui est aussi un peu terrifiant pour les petits. Et qui sont très très chouettes, avec plein de petits détails aussi de cet univers. Et est vraiment très chouette.
Ouais, moi j'adore Nastasia Rugani, elle faisait des livres plutôt pour les ados et c'est un de ses premiers livres pour les plus jeunes, enfin, en tout cas pour cet âge-là, et qui est vraiment réussi. Moi aussi j'ai un livre, alors pour les un petit peu plus âgés, quand même, on va plutôt monter vers les 12-14 ans, on va dire. C'est la réédition en poche d'une série que moi j'avais adorée qui s'appelle Power Club d'Alain Gagnol. Alors Alain Gagnol, il a une double actualité actuellement, puisqu'il a sorti un roman ado qui fonctionne très bien, qui est dans la dernière liste du prix vendredi. La réédition de ce Power Club, c'est vraiment une très très belle série. En gros, le Power Club, c'est une espèce de club très très privilégié où c'est simple, il n'y en a que 7. Il y en a 7 ou 8, je ne sais plus, super-héros dans le monde. Et ils vont se faire une espèce d'injection de super-pouvoir. Et ça devient vraiment les Avengers, en fait, adolescents qui peuvent sauver le monde. Donc les super-pouvoirs sont différents selon chacun. Et là, on va suivre Anna. Anna, elle a réussi tous les tests, elle est jeune et riche, elle peut donc prétendre, parce qu'évidemment il faut être riche, hein, elle peut prétendre à devenir, à faire partie du Power Club. Sauf que Anna, elle a un peu une conscience par rapport aux autres, et donc elle ne veut pas juste avoir des super pouvoirs pour avoir des super pouvoirs et être célèbre et être hyper riche et voilà. Non, elle a un peu d'éthique, et c'est là où en fait le roman prend tout son intérêt, puisqu'en fait elle va remettre un petit peu en question ses super pouvoirs. À quoi servent-ils? Est-ce que c'est vraiment utile à la société? C'est un très très bon roman, c'est en 3 volumes, ça se lit comme un film de James Bond, comme un film des Avengers, vraiment ça se mange, c'est un côté très cinématographique. Et vraiment, si vous avez des ados qui ont envie d'histoires qui vont vite, eh ben, je vous conseille ce Power Club. Des romans ados, Lucille ?
Oui, j'en ai un.
Allez.
Allez. Et donc, j'ai Héroline Marteau, Grande Prêtresse de l'Étrange, d'Aurélie Magnin, édité chez Le Rouergue. Héroline, c'est une jeune fille qui est très atypique, un peu bizarre. Elle est seule dans... Enfin, elle n'a pas d'amis, sauf une bande de fantômes qui est tout le temps fourrée chez elle. Et son chat aussi est un fantôme. Sa mère est aussi tout à fait bizarre. Elle peint et elle fait des sculptures de squelettes de chats.
Oui, c'est pas trop les chats quand même.
Alors, on est dans un monde assez étrange. Et dans son collège, il y a une nouvelle personne qui va débarquer dans sa classe. Et celle-ci, bizarrement, elle la trouve totalement parfaite. Elle est en admiration devant Héroline, alors que celle-ci se dit « pourquoi elle m'aime bien ?» Et donc ça va venir chambouler tout son quotidien. Elle va se remettre aussi en question avec cette personne-là. Et donc c'est un roman qui va traiter de beaucoup de choses différentes sur la transidentité, sur le harcèlement, sur le côté aussi d'être un peu étrange, d'être pas dans la normalité. Et c'est vraiment un roman qui est vraiment très drôle, qui a assez un humour un peu grinçant aussi, qui est aussi très touchant. Et il y a aussi un côté enquête avec la disparition d'un de... Enfin, il va comprendre... Comment dire, il y a un fantôme qui va apparaître dans la nouvelle bande de ses compagnons. Et en fait, ils vont chercher à comprendre pourquoi cette personne est morte, parce que le fantôme ne sait pas comment elle est morte. Voilà. Donc, une histoire d'enquête aussi. Franchement, il est vraiment très, très chouette, très plaisant à lire.
Eh bien,
je recommande.
Si Noël approche, hein, évidemment, donc on pense aussi à vous un petit peu, à Enlique Wanou, on n'a jamais été aussi proche. Alors, vous savez que la grande mode dans les romans ados, peut-être qu'on en fera une partie d'émission un jour, c'est le passage en collector de plein de séries. C'est vrai que la romance nous a beaucoup apporté ça, la romantaisie aussi. Eh bien, il y a des fois des titres majeurs, des grands classiques qui sont aussi réédités en collector, et franchement, ça fait plaisir. Donc là, si vous avez deux cadeaux à faire, franchement, vous avez deux rééditions en collector qui sont trop trop belles, et puis les livres sont absolument géniaux. Le premier, c'est 10 de Marine Carteron au Rouergue. C'est cette reprise un peu de Ils étaient 10 d'Agatha Christie de manière complètement contemporaine avec des ados. C'est sanguinolent, ça envoie, c'est bien flippant et ça fonctionne trop trop bien, et on ne sait jamais qui a tué parce qu'à chaque fois il meurt juste avant qu'on pense qu'on a trouvé qui c'était. C'est du pure Marine Carteron, c'est vraiment excellent. Donc si vous voulez un bon thriller, le 10 du Rouergue avec un très beau jaspage orange et noir. Enfin,
très joué.
De toute beauté. Et puis deuxième livre qui vient de sortir en collector, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, publié chez Nathan. C'est pareil, ça c'est un livre qui m'avait bouleversé. Alors c'est un livre triste, émouvant, autour de la guerre en Syrie, mais aussi de la famille. C'est aussi une romance. Il y a plein de choses dans ce livre-là. C'est un livre où on pleure du début à la fin. C'est juste... Moi, c'était un des plus beaux livres que j'avais lu en 2023 ou 2024 quand il était sorti. Et donc, il ressort là aussi en collector, avec un très beau jaspage. C'est magnifique. Si vous voulez faire un beau cadeau, franchement, à un ado ou un adulte, offrez ce Temps que le feront les citronniers. Allez, c'est magnifique. Il nous reste encore juste 3-4 minutes pour parler de bande dessinée. Un mot peut-être sur une bande dessinée, puis après, on a envie de faire du manga quand même. Donc, juste un petit coup de cœur pour une BD.
Oui, elle est très speed. Mimouche, qui est le premier tome donc de Véro Caso au scénario et de Carole Morel au dessin, publié chez Dupuis, qui est l'histoire de Colette, 11 ans, qui a perdu sa sœur dans un accident. Et on la retrouve aujourd'hui à 14 ans, où elle s'efforce à la danse classique pour faire plaisir à sa mère. Mais ça ne lui correspond pas du tout, et elle découvre la boxe. Et là, elle va vraiment se redécouvrir elle-même. Et c'est une BD qui est vraiment super, ou qui aborde des choses, des sujets qui sont difficiles, mais vraiment qui le traite de manière très chouette. Le dessin aussi la porte très bien. Et le deuxième tome va sortir aussi en janvier, donc on a très hâte.
J'allais dire, on a hâte, on a trop hâte. Parfait, parfait. Et puis, on voulait parler un peu de manga, c'est vrai qu'on en parle assez peu. On a sélectionné deux séries plutôt à duo adulte, on va dire. Une française, une japonaise. Lucille, vous présentez la française.
Oui, et donc c'est le manga Yon de Camille Broutin. Camille Broutin, qu'on adore.
C'est elle qui avait fait Fille Unique.
Et oui.
La série Fille Unique.
Qui est publiée chez Dargaud dans la collection Combo. Et donc le tome 1 et le tome 2 sont sortis. Ça sera en 4 tomes.
Et c'est trop bien.
Et c'est trop bien. Et c'est assez intriguant, captivant.
C'est hyper flippant, tu veux dire. C'est horrible. Non, j'adore. C'est, si vous aimez les ambiances un peu à mystère, un peu glauque, mais on ne sait pas trop. Voilà, c'est
qui se passe dans un internat.
Une sorte de truc post-apocalyptique avec des boules qui sont tombées, qui sont a priori des monstres qui peuvent tout bouffer. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. On a, je ne sais plus, 80 filles bloquées dans un internat. C'est... Ah ouais,
c'est ça.
On voit trop le film, c'est,
oui.
C'est génial. Non, franchement, Camille Broutin,
ouais,
c'est super.
On adore.
C'est super. Et puis moi aussi, pour finir, allez, comment on va finir avec un morceau de musique ? Eh bien, je parle de musique avec le manga Sons of Vinyl. C'est un manga de Ryoshiro Keizuka, publié chez Vega. Et ce sont des nouvelles en manga. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas l'habitude. Ce sont plein de petites nouvelles qui parlent de musique, qui parlent de vinyle, de l'amour, de l'objet. Ça se passe à des époques différentes, dans des lieux différents, dans des pays différents. Et c'est juste le thème principal, c'est la musique, c'est le vinyle, c'est l'amour du micro-sillon qu'on va poser, puis qu'on va faire... Voilà, c'est ça. Donc si vous aimez cette ambiance-là, il y a deux tomes qui sont sortis, et vraiment c'est absolument génial, ça s'appelle Sound of Vinyl, publié dans la collection Alpha de chez Vega. Et ben voilà, on a réussi, et on va finir... comme d'habitude en musique. On va écouter Clopelgag qui viendra le 4 février au Reflet à Saint-Berthevin. Clopelgag, c'est une chanteuse québécoise, je vais réussir, qui était déjà passée au Reflet en 2022 et qui revient présenter son nouvel album. Donc voilà, on vous souhaite une très bonne fin de dimanche, très bonne fin de week-end. Lucille, merci beaucoup de m'avoir accompagnée.
Eh bien, merci et à bientôt.
Merci d'avoir fait la technique. Un gros bisou à Véro quand même, un bon rétablissement. Nous, on vous souhaite de très belles lectures et puis on se dit au mois prochain. À bientôt.
À bientôt.